102.1.
On en jase à Boulevard 102.1 avec Jeff Fortin et Pascal CV. 16 degrés sur Québec à l'heure actuelle. Il fait soleil. C'est même 18, je vous ai menti. 20 au maximum. 18 demain avec de la pluie. 22 vendredi alternant soleil et nuages. Et à plus long terme, ce week-end, ça va être super beau avec un 19 degrés samedi et un 25 dimanche, Pascal CV. On va faire quelle température, Kilimanjaro?
34 degrés soleil plombant.
Quand vous allez arriver?
Ouais, les malade. Premiers jours, on est là-dedans.
Malade. Donc, encore une fois, bravo, puis let's
Merci.
Go.
Merci.
On y va à fond de train. Pascal, on a une invitée très spéciale. On parle énormément d'itinérance depuis plusieurs jours, notamment depuis la sortie publique de Napoléon Wu vendredi, lorsqu'il s'était joint à l'équipe de Leadership Québec, un mariage qui n'a pas duré très longtemps, en raison de ses propos justement sur l'itinérance. Et on a Alexandra, une auditrice, qui nous a dit « Hey, moi, je vais venir vous en parler d'itinérance. »
Je trouve ça super pertinent parce que dans la publication qu'on a faite sur la page Facebook de BLVD, oui. là, 102.1, il y avait quelqu'un, une auditrice, qui avait dit « Ah, tu sais, on a entendu sa maman là-dessus, on a entendu M. Wu là-dessus, mais est-ce qu'on a entendu quelqu'un du domaine et tout ça? » Puis moi, automatiquement, j'ai répondu quand je viens de le voir. Oui, puis on a reçu quelqu'un, le directeur de pêche.
Benoît
puis,
Côté.
Exactement. Puis j'ai dit « Connectez-vous parce que dans les prochaines minutes, il y a une personne qui va pouvoir nous en parler en l'ayant vécu. »
Exactement. On a le plaisir d'avoir avec nous en studio Alexandra Doyon. Alexandra, comment ça va?
Hey, ça va bien.
Oui, parfait. Oui, ça va
ça
très
va bien.
Pas trop nerveuse?
Un petit peu, c'est sûr.
Mais merci de faire ça, hein, parce que c'est rare
beaucoup.
Qu'on a accès à une vulnérabilité comme celle-là.
Exactement.
Puis quelqu'un qui vient nous raconter les choses.
Tu vas en inspirer beaucoup, je suis convaincu. Alexandra, si on commence, toi, tu me racontais au téléphone là, avant l'entrevue, tu es une enfant de la DPJ, c'est bien ça?
Oui, depuis mes 12 ans.
OK, que tu as voyagé parmi plusieurs familles d'accueil, comment ça s'est passé?
Ça s'est passé, moi j'ai fait... une tentative à 12 ans.
OK.
Puis après ça, la DPJ, il y a eu un signalement. Puis j'ai resté avec des idées suicidaires pas mal tout le long de mon enfance. Ce qui fait en sorte que la famille d'accueil est arrivée, ça n'a pas été long. Une famille d'accueil d'urgence, qu'on appelle, à la DPJ. C'est une famille que quand que la personne n'est plus bien chez vous, chez eux, elle va comme prendre un break dans une famille
qui est toujours
ailleurs.
Prête à recevoir quelqu'un.
Ouais.
C'est un peu la zone tampon entre une adoption.
Un peu comme un agent de garde.
Oui, puis la famille dans laquelle, mettons, quelqu'un vit, c'est ça?
Oui, c'est ça. Puis, juste après, à 15 ans, trouble de comportement, drogue, nommez qu'est-ce que vous voulez, je l'avais.
Drogue beaucoup reliée à ton mal de vivre, j'imagine?
À mon mal de vivre, la famille dysfonctionnelle que j'avais. Okay.
T'étais-tu consciente à ce moment-là que c'était ça qui te faisait consommer?
Totalement.
Tu voulais oublier?
Je voulais l'oublier, plus que d'autres choses.
Puis par la consommation, ça te donnait un break, c'est ça qu'on comprend?
Oui, puis par exemple, la famille d'accueil à 14 ans, ça m'a donné un break, pour vrai.
Un break de
un
ta famille,
break.
Dans le fond? Ou...
Oui, un vrai break de la vie que j'avais dans ma famille dysfonctionnelle.
Ça a bien été, donc, avec la famille à 14 ans.
Rester.
Qui OK, c'est un milieu familial comme tu n'avais jamais vécu.
Si je serais resté là, j'aurais jamais été dans l'itinérance.
Okay.
Pourquoi on t'a sorti de là?
Parce que c'est une famille d'urgence.
C'est la famille tampon
c'est
dont on parlait.
Ouais.
Est-ce qu'à ce moment-là, on te renvoie toujours dans ta famille qui est dysfonctionnelle ou on tente de trouver une famille d'accueil à long
non.
terme?
On me renvoie chez nous, dans ma famille dysfonctionnelle. On essaye d'aider la mère monoparentale qui essaye de dealer avec ça, on va dire.
Vous étiez combien d'enfants?
Trois enfants. Ce qui est gros pour...
Pour une mère monoparentale.
Pour une mère monoparentale.
Qui n'a peut-être pas les outils.
Puis juste dans notre société aussi.
Oui, à la base, tu as bien raison.
À la base.
Toi, t'es quel rang dans ta fratrie? La plus vieille.
La plus vieille.
OK. Fait que est-ce que tu sentais en plus que tu avais une charge sur tes frères et sœurs?
Totalement. Moi, à 12 ans, là, je faisais tout. Ma mère, elle dormait dans sa chambre. Puis Elle me disait à moi de faire toutes les tâches ménagères. Elle disait à mon frère et ma soeur d'aller jouer dehors. Et après, ben, quand que j'avais fini, ben, j'allais jouer dehors avec mes frères, mon frère et ma soeur. Pendant qu'elle dormait, elle était sur l'aide sociale.
C'était quoi la...
J'aime pas ça parce que je veux...
Non, je comprends.
J'aime pas ça parler en mal de ma mère. Mm-hmm. Parce qu'elle a fait beaucoup de choses. Sauf que... C'est
la vérité. Elle manquait d'outils.
C'est la vérité, puis c'est vrai. C'est totalement le fait qu'elle manquait d'outils.
Quelle est la différence d'âge avec frère et soeur?
Quasiment 5 ans.
Okay.
Je dirais 4 ans et demi.
Parfait.
Plus. Puis 6 ans. Quasiment pile.
OK, fait qu'il était vraiment plus jeune là, quand tu avais 12 ans à ce moment-là. Tu t'occupais vraiment d'enfants là, qui étaient plus jeunes.
À 7 ans, je donnais le biberon à ma soeur. C'était un beau moment, pour vrai.
Ça t'apaisait.
Oh, wow.
Ça m'apaisait.
C'est particulier parce que ce que tu évoques d'être un peu en déchirure entre l'amour que tu portes à ta mère parce que tu dis que c'est une belle personne, mais la réalisation de savoir que tu n'es pas dans une famille qui est parfaite pour ton évolution, au-delà de parfait, qui est bonne pour ton évolution personnelle.
Tout simplement.
Ça doit être difficile à vivre au quotidien, ça. As-tu l'impression de... Comment dire, trahir ta mère quand tu souhaitais à ce moment-là vouloir être ailleurs?
Vraiment. Dans mon fond, t'es fort intérieur, là. Quand que je disais que je pense que c'est ma marraine, ma tante, qui est ma mère, je pense qu'on s'est trompé de famille. Quand que je dis je veux rester dans la famille d'accueil, dans mon fort intérieur, ça fait mal. Vraiment mal.
Mais ça, ça doit être déchirant aussi.
Ça vient fucker le cerveau d'un enfant de 8 ans, de 12 ans, n'importe quel âge. C'est un enfant qui n'a pas un cerveau totalement développé va avoir des répercussions, c'est certain.
Tu m'as parlé au téléphone aussi de violence conjugale que tu as vécue dans ta famille. Comment c'est arrivé tout ça?
Comme je te disais, à ton téléphone, au téléphone. Il y a des choses qui ont favorisé le fait que j'ai rentré dans l'itinérance. Il y a des choses qui ont favorisé le fait que j'ai resté dans l'itinérance. La violence conjugale, ça a favorisé le fait que je suis resté dans l'itinérance. Par exemple.
Pourquoi?
Parce que quand que tu commences à avoir une relation, il y a quelqu'un qui te donne un toit. Mais qu'il te fait vivre l'enfer. Toi, tu veux t'en aller, mais t'as pas de ressources. Ils sont où les ressources? Moi, là, je me suis... Voulez-vous savoir comment que j'ai dégagé de chez lui?
Mm-hmm. Ouais, vas-y.
Moi, j'ai dégagé en silence. Pendant un moment qu'il était de bonne humeur. Il était dans la douche. J'ai dégagé.
T'as quitté l'endroit où t'habitais.
Parce que c'était pas séquestré. Il y avait pas de cadenas à la porte. Il était dans une bonne humeur.
Là, tu savais que c'était ton moment pour quitter.
Ouais.
Mais à ce moment-là, tu t'en allais nulle part.
Ben non. J'avais un téléphone. J'ai appelé. Des maisons, là.
Pour les aides de femmes, pour les victimes de violence conjugale. OK.
Soit ils ont pas de place.
OK. Ils sont pleines.
Soit ils sont pleines, soit... Ouais. T'es plus là. T'es plus en danger. Anecdote. Je me suis fait suivre par ce gars-là. Quand j'étais parti, là, il m'a écrit. Moi, j'ai pas fait attention à ce texto-là. Mais je vais me promener un petit peu plus en ville. Mon ami me le voit en arrière de nous autres. Je regarde, c'est lui.
Il te cherchait.
Il me cherchait. Je l'ignorais. Quand que j'y ai parlé, j'ai dit « Je veux pas rien savoir de toi. » Lui, sa réaction, ça a été de me cracher dans la face.
Toi, t'étais dans la rue à ce moment-là.
Oui, c'est ça.
Fait que t'es arrivé dans la rue dans un contexte de fuite de violence conjugale où, à la base, t'avais pas de famille pour t'héberger, pour t'aider parce que tu venais d'un milieu
dysfonctionnel. Non, puis tout le monde me disait non, là.
OK. Mm-hmm. Donc là, toi, ta solution, c'était la rue. Hey, à partir de ce moment-là, quand tu mets le pied dehors, là, tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu t'en vas où? Tu dors dehors? Tu dors?
Moi, là, personnellement, là, oui, J'ai déjà gelé. J'ai déjà. Mais je faisais tous les efforts possibles pour trouver, par exemple, des ressources temporaires. Parce que c'est ça qu'il y a. Mm-hmm. Il n'y a pas de ressources qui t'aident à t'en sortir. Puis des ressources plus à longue durée.
Okay. Puis là,
qui te donnent le temps de t'en sortir.
Puis là, tu nous racontais justement que, bon, les maisons pour aider les femmes, il n'y avait plus de place. Tu te retrouves à la rue, tu te fais cracher dans le visage. Des ressources temporaires. Dans quelles ressources temporaires t'allais? T'allais-tu, par exemple, à la maison L'Aubrivière? Qu'est-ce que tu faisais comme démarche?
L'Aubrivière, faite par les femmes, pour les femmes. Mm-hmm. Projet Lune.
Oui.
Que j'ai très, très aimé.
Ça a failli fermer à un moment donné,
Que on arrive à 6 heures le soir, on part à midi le lendemain.
Ça te donne le temps de t'apaiser, de te poser.
Oui, ça me donne le temps de...
Il y a des intervenantes aussi, oui. Là-bas, à Projet Lune.
24 heures sur 24. Tout le temps qui s'est ouvert.
Mais c'est quand même un genre de 12 heures, là, environ.
Non, quand même, oui.
Toi, ce que tu déplores, c'est qu'il n'y ait pas d'endroit où on peut t'aider à avoir un refuge pendant une semaine, peut-être deux semaines, juste le
non,
temps
même
ça.
Non, même pas.
Même pas?
Parce qu'il y en a.
OK.
Il y en a de ça. Mais c'est pas tout le monde qui trouve quelque chose dans le même moment, dans le même temps.
Ta période d'itinérance a duré pendant 3 ans?
De 19 à 23.
De 19 à 23, fait que pendant 4 ans. Comment tu meubles tes journées à ce moment-là? Tu te promènes où? Tu couches où?
Moi, j'étais nomade. Je me promenais beaucoup. J'allais voir tout le monde. Ce qui n'était pas nécessairement bon.
T'allais voir tout le monde, les organismes ou...
Non. Les autres personnes, les autres itinérants.
OK.
Je parlais à tout le monde. Sauf que je faisais en sorte, le plus possible, d'avoir la ressource le soir pour dormir. Des fois, j'ai pas eu ça. C'est sûr, souvent.
Mm-hmm. Puis comment ça se passe quand on dort dans la rue? Tu t'installes où? Ça marche comment?
Tu trouves des spots. Tu trouves des spots, puis que la police n'est pas de temps, elle va pas tant là. Comme par exemple à Granby. Moi, je dormais entre le palais de justice et l'autre bâtiment.
Tu n'as pas été à Québec tout le long, c'est ça qu'on comprend?
Non, je suis nomade.
Okay.
J'ai été dans plusieurs villes.
OK, nomade étant plusieurs villes et pas juste dans certains secteurs.
Puis dans les villes, ben, je parlais à tout le monde.
Okay.
J'allais partout.
Tu fuyais en faisant du pouce?
Non. Moi, je fuyais soit en autobus. Vous savez, l'Orléans Express.
Mm-hmm. Tu ramassais de l'argent dans la rue pour te sauver?
Non, moi, j'avais... C'est à cause que moi, j'avais un chèque de BS depuis mes 18 ans. J'avais déjà ça. Ce qui m'aidait quand même bien, beaucoup. Même si ça allait beaucoup dans la drogue, j'en avais assez. Quand même pour vivre.
Il ne faut pas un loyer, une adresse pour être capable d'avoir ce chèque-là d'aide sociale?
Je m'en trouvais une. Un organisme quelconque dans la ville où j'étais.
OK.
Comme Projet Lune à Québec.
Dans l'itinérance, là, comment est-ce que les gens te regardaient? Comment est-ce que les gens t'abordaient? Pour ceux qui vivaient le quotidien dans une toute autre réalité.
Ceux qui étaient... avec une job et un toit et tout. Plusieurs réactions. Ceux qui sont comme ignorants. Ignorent, tout simplement. Non, moi, je veux rien savoir de toi.
Ça fait-tu mal, ça?
Au début. Mais quand je peux vous le dire, après un certain temps, toi aussi, tu t'en fous. Toi aussi... Tu t'en fous de ça, puis tu passes à quelqu'un d'autre.
T'avais-tu des gens bienveillants aussi envers toi?
Non. Non. Ça, je parlais à tout le monde, sauf qu'il y avait personne qui m'aidait pour m'en sortir.
Quand tu dis qu'il y avait toutes sortes de réactions face à toi en situation d'itinérance, puis au fait que tu les approchais, ou c'était quoi les autres réactions?
Il y avait ceux aussi qui étaient comme... Je dirais pas... Oui, empathique, mais... Ils ont pitié. Ils ont pitié de moi. Puis ils font qu'est-ce qu'ils peuvent pour m'aider. Un petit 2$. Un petit 5$.
Sentais-tu qu'on te jugeait pour la consommation? Sentais-tu que les gens te diminuaient au fait que tu consommais dans le sens où t'as-tu l'impression qu'on te disait « Ah, ben cette fille-là est dans la rue parce qu'elle a consommé et elle n'a pas d'argent pour ça? » T'avais-tu envie de crier ton histoire de violence conjugale, ton histoire d'enfance à ce moment-là?
J'ai toujours eu ce besoin-là en moi.
Tu l'avais de pris en dedans, puis tu voulais crier à quel point tu étais malheureuse?
Oui, puis là, je veux crier. Là, j'ai le besoin de crier du fait que il y en a d'autres qui sont comme moi, dans la rue, qui sont malheureux, puis qu'ils ont besoin d'aide.
Puis qu'ils sont pas juste dans la rue à cause de la consommation.
Oui, qu'il y a d'autres, il y a des histoires, santé mentale, violence conjugale, enfance pas normale.
Qui t'a rencontré, qui t'a marqué dans la rue? Quelqu'un qui était aussi en situation d'itinérance, tu te rappelles de son histoire?
Il y en a un, oui, à Grimby. Lui, il était pas dans l'itinérance, il a pas tout le temps été. Lui, c'est la malchance qui l'a mené à l'itinérance de sa famille. Il s'appelle Maxime Deslandes. Ça me dérange pas de prononcer son nom. Hein. Là, il est rendu, il s'en est sorti. Je suis contente. Pour vrai. Ça a été quelqu'un qui m'a... Une des seules personnes qui a été positive pour moi. Même s'il consommait. Même si. Ben, il était positif pour moi, mentalement. Ça m'aidait à progresser. À être plus persévérante. À faire en sorte de faire plus d'efforts pour m'en sortir. Puis de, si ça marche pas lâcher. Puis continuer, réessayer. C'est ça que j'ai fait.
Avant de passer à l'étape, parce qu'on veut aussi parler de cette étape-là, tu t'en es sorti de l'itinérance. Tu as réussi justement, après 4 ans d'itinérance, à t'en sortir. Deux questions d'auditeurs. La première, qu'est-ce qui a fait en sorte que Alexandra, 12 ans, qui avait déjà eu des idées suicidaires, est passée à travers ces 4 années-là tellement tough en itinérance?
Tu me laisses un petit 2 secondes pour penser à mes mots.
Je te laisse toutes les secondes okay. que tu as besoin. En attendant, tu as énormément d'amour des auditeurs. Hein.
Puis vous pouvez continuer d'écrire en 88-971-102.
Un gros merci, vous êtes très gentil. C'est une goutte.
C'est correct.
Parce que c'est ça que je veux que ça fasse. Que je transmette le message. Mm-hmm. Je sais pas si j'ai trop chuchoté, mais non. Je transmette le message.
Puis qu'est-ce qui t'a accroché justement pendant ces 4 ans-là?
Je savais qu'il y avait quelque chose de mieux. Puis que Dieu me réservait. Excusez-moi la religion. Là.
T'avais une croyance.
Mais non, c'est pas ça. C'est juste pour dire, je sais qu'il y a quelque chose qui va s'en venir pour moi. Je crois. C'est la croix. C'est croire en toi qu'il faut faire.
Toi, tu avais cette facilité-là avant d'aller dans le parcours de pourquoi tu es sorti. Mais il y en a d'autres qui restent dans la rue toute leur vie et qui n'ont pas ce genre de fougue-là que tu as eu de te dire « Je vais m'en sortir, il y a quelque chose qui m'attend. » Pourquoi tu penses que ces gens-là sont éteints?
Ils sont peut-être rendus à une autre étape. Ils sont rendus plus loin. Plus loin dans leur tête. Plus loin dans leur physique. Ils n'ont plus la force physique ou mentale de s'en sortir, tout simplement. C'est là que je dis que chaque itinérant a besoin d'un temps différent pour s'en sortir. Et c'est là que je dis qu'il manque de ressources de ce genre-là, qui donnent, par exemple, 6 mois à quelqu'un pour s'en sortir. Et non, 1 mois, 2 semaines. Mm-hmm.
C'est-tu vrai que c'est facile s'en sortir de l'itinérance?
Zéro pin-bar.
Raconte-nous comment ça a été difficile pour toi.
J'ai fait plusieurs séjours dans des hébergements qui ont rien donné partout, pas juste à Québec, pas juste à l'Aubrivière. Toutes les maisons qu'il y avait ailleurs, les maisons de violence conjugale, personnes en difficulté, mais c'était jamais assez long. J'avais jamais les bonnes affaires qui pour m'aider. Moi, je peux dire que ça a pris un entourage pour m'en sortir.
C'était qui ces gens-là?
Une personne. C'est mon conjoint.
Tu l'as connu dans la rue?
Je l'ai connu. C'est bizarre, c'est une anecdote. Je l'ai connu sur un site où que pour des one night. Parce que j'aimais bien ça, le sexe. Ça, je suis authentique, je suis honnête. Je dis pas de la merde. Je l'ai rencontré là. Mon ex, on a fait 3 jours de sexe intense, puis après ça, mon ex m'appelle, me dit, je te crisse dehors, tu reviens pas. OK, c'est bon. Je vais retourner dans la rue d'abord. Puis mon conjoint a dit, non, toi, tu restes avec moi. Je vais t'aider à t'en sortir.
Et à partir de là, qu'est-ce que tu fais comme action pour t'en sortir?
J'arrête tout ce qui est négatif pour moi. Tout ce qui est nuisible. Comme là, présentement, je fais juste fumer du pot de temps en temps.
Ça a été graduel d'arrêter.
Et je faisais de toutes les drogues.
Okay.
J'ai arrêté un à un, mais d'une façon sec.
Parce que tu te sentais aimé? Parce que tu voulais pas perdre
parce
ça?
Que oui, il y avait ça, c'est sûr. Je me sentais aimé. Je me sentais à ma valeur. Aimé à ma valeur. Ce que les itinérants ont pas. La majorité. Et qu'ils ont besoin pour s'en sortir. Parce que, comme vous dites, excusez-moi, la majorité des itinérants ont pas aucun support. Puis, proche, là, je dis pas juste la famille, des amis qui veulent que tu t'en sortes, des conjoints et conjointes qui veulent que tu t'en sortes. Non, ils ont pas ça. Puis t'as besoin de ça pour t'en sortir. Ou sinon, ça va être dur. Ça va être extrêmement dur. Parce que ça a été ça pendant 4 ans pour moi. Parce que moi, j'essayais. Ça marchait pas. Je réessayais. Mais il manquait tout le temps quelque chose.
Petite parenthèse, t'es retourné chez ton ex-conjoint violent à un moment. C'est ça qu'on comprend, ça veut dire.
Oui, j'y suis retourné. Et je m'en veux.
Sois pas honteuse de ça.
Non.
Tu y es retournée parce que c'était un toit?
Parce que je l'aimais aussi.
Tu avais un peu cet amour-là aussi. Mm-hmm.
Mais oui. C'était pas juste... J'avais un toit, là.
OK.
T'as recherché énormément l'amour.
Oui, oui. C'est un itinérant, c'est pas comme... différent d'une personne qui a un toit, là, qui... C'est juste pour le toit que tu vas...
Non, mais ça aurait pu, tu sais. Mais c'était un mélange de plein de choses.
Mais non, moi, c'était vraiment l'amour qui m'a tourné.
OK.
Maintenant, t'es allé avec ton conjoint actuel, t'as trouvé l'amour, t'as dit « je vais me sortir de l'itinérance ». Tu nous parles « j'ai arrêté de consommer », première étape. Quelles sont les autres étapes si tu veux justement bien guider les gens présentement qui sont justement dans la situation dans laquelle tu as vécu pendant 4 ans?
Moi, qu'est-ce que je peux dire, c'est travaille sur toi. Travaille sur ton estime. Travaille sur tes problèmes de comportement. Essaye de délocaliser tes comportements négatifs. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu t'en allais dans l'itinérance si tu as essayé? ou si tu restes dans l'itinérance, c'est pour quelle raison? Quel comportement? C'est juste, localise-les.
Avais-tu des problèmes de comportement, toi, justement, quand tu étais dans des ressources qui faisaient en sorte qu'on abandonnait avec toi?
J'étais un petit peu insistant, je peux dire. J'étais un petit peu insistant. Je suis très... On peut dire... j'ai le moulin à parole facile, etc. C'est ces problèmes-là.
L'impulsivité.
Dépendance affective, je te dirais.
Ça vient souvent de milieux dysfonctionnels, là. De chercher sa place.
Ben oui, c'est ça.
De chercher dans les yeux de qui on va être valide, vu, entendu, qu'on va exister, tu sais. Il y a beaucoup de textos aussi par rapport au fait de se respecter soi-même. Moi, je peux pas passer à côté de ta situation, ton enfance dans le contexte. Il y en a plusieurs, des enfants, qui vivent en ce moment et qui ont vécu ce que tu as vécu. Ça laisse des traces. Tu as encore de l'affection pour ta mère. Tu comprends qu'il y a certaines personnes qui n'avaient pas la boîte à outils pour être parents. Tu as eu un discours très valorisant auprès de la DPJ, mais ça vient souvent être contrecarré, des fois, avec d'autres histoires qui sont plus négatives, t'sais, dans l'actualité.
Ça, je le sais très bien. Je sais très bien que la DPJ a son côté sombre. A son côté sombre aussi. Et je le nie pas. Parce que ça a été... Elle a fait son côté sombre de mon cas, pour mon cas aussi. Là. Je valorise pas juste la DPJ. Je valorise... C'est pas la DPJ qui valorise. C'est la famille d'accueil à 14 ans. La DPJ, ça, je peux la... Ça, je peux taper dessus.
Sur des choses. Mais la famille qu'on t'a donnée, la famille tampon, là...
La première, oui, la tampon, là.
Crois-tu que c'est là où t'as eu le premier espoir qu'il y avait d'autres choses pour toi dans la vie?
Toujours.
À ce moment-là?
Oui.
D'être chez des gens aimants, en sécurité?
Oui, puis que je savais que j'allais bien grandir.
OK.
Je savais que j'allais bien évoluer.
Tes frères et sœurs sont où maintenant?
Eux ont eu une... à part un petit bout pour ma sœur, mais après ça, ils ont eu une évolution très différente que moi.
OK.
Et quel type d'évolution?
Dans les médias sociaux.
OK.
Ce que j'ai...
Travaille là-dedans?
Hein?
Non, je veux dire, ta sœur, ton frère.
Non, pas que, qu'ils travaillent là-dedans, mais qu'ils ont vécu avec le Facebook, le Xbox, le Twitter.
OK,
pas Twitter, mais X.
Tu penses... Et ça, TikTok. Ça a amené quoi?
Ça a amené que... C'est comme si j'étais dans une autre génération.
T'as l'impression que eux, c'était leur échappatoire à ce moment-là?
Non.
Et que toi, t'aurais aimé ça? On essaie de...
Excuse-moi. Ouais.
Pourquoi est-ce que tu penses que leur futur à eux était différent du tien?
Ils ont eu une éducation différente que moi, par exemple. Ils n'ont pas vécu les mêmes choses de la même manière et ils ont évolué d'une autre façon à cause de ça.
Ils n'ont pas vécu la pression sûrement. Tu avais de la pression quand même
aussi,
de t'occuper d'eux.
Il y a vraiment le fait des réseaux sociaux.
OK.
Qu'eux étaient plus connectés au monde.
Ah, c'est ça, il y avait des gens qui parlaient.
Parce que nous, on a tout le temps habité dans des petits villages, dans la campagne éloignée. Fait que moi, vu que je pouvais pas, j'avais pas le droit à ça, à cause d'une raison particulière que je vais vous dire après, ben j'ai évolué différemment. J'ai été déconnecté du monde. Moi, là, je suis encore en 2015, c'est pour vous dire, pour les technologies. J'ai utilisé ChatGPT 10 fois pour 10 questions nowhere.
C'est pas grave, ça. Il y en a plein qui sont encore en 2012. Même nous autres, on n'est pas les meilleurs. Fais-toi ça pas avec ça.
Ouais, mais moi, j'ai 26 ans.
C'est pas grave.
C'est pas grave.
On te pose 2-3 questions pour terminer. Est-ce que tu as l'impression d'avoir toujours été à la recherche de l'amour de ta mère?
Oui. Oui. Toujours. Je suis toujours.
T'es-tu capable d'y en parler?
Hey, maman. Salut. J'espère que ça va bien. Tu sais bien que je t'aime, hein? Je t'aime. J'aimerais ça que tu puisses m'aimer autant que je t'aime. Que tu gardes contact avec moi, que tu reprennes confiance en moi, s'il vous plaît. Merci.
Je suis certain que le message a été entendu, Alexandra.
Juste une dernière chose.
Vas-y.
Voulez-vous savoir c'est quoi la raison particulière?
Comme tu le sais.
Ma santé. Ça n'a jamais été de mon bord. Depuis ma naissance. Ça ne m'a pas aidé. Ça m'a aidé à être itinérante en tabarnak. Quand tu es épileptique, mauvais développement, quand tu es dans le bedon de ta mère. C'est dur à vivre pour un enfant, pour un adolescent, autant que pour une adulte. De vivre avec cette putain de maladie silencieuse. J'ai de l'air normal, là. À un moment donné, je peux faire la crise du bacon. Je peux partir. Bye bye. J'ai même une cicatrice ici. J'ai été opéré. Je prends autant de médicaments.
On n'a pas pris soin de ça non plus, ouais, dans ta jeunesse.
Ma mère, elle a fait qu'est-ce qu'elle pouvait. Là, c'est là-dessus, je peux la remercier. C'est là-dessus, je peux la remercier. À ma naissance, 95% de chance d'être légume. Alors, elle m'a aidé là-dessus, puis je la remercie. Sauf que ça n'a pas aidé à ma distance.
Alexandra, c'est fou les messages qui rentrent par texto. T'es pas tout seul. Plein de gens qui sont avec toi. Continue ton parcours incroyable. T'es inspirante, ça n'a aucun bon sens.
Quelle force d'esprit.
Ah, c'est fou. Je suis certain que tu viens de permettre à des gens qui sont à l'écoute de se prendre en main et de faire le pas peut-être qu'ils hésitaient à faire. Félicitations pour ton courage, ma fille.
Ben, je dis merci à tous les auditeurs. À tous les auditeurs. Aussi de m'avoir écouté et que vous puissiez transmettre le message. Si vous avez ou vous êtes dans l'itinérance, si vous avez des proches ou vous êtes dans l'itinérance, de transmettre le message à ceux qui ne l'ont pas écouté.
Moi, tu me touches carrément sur l'amour, là.
Ah oh, oui.
Moi, je trouve ça déchirant. Que toute petite, t'as eu à être déchirée entre toute l'affection que tu portais pour ta mère. T'as encore énormément de respect pour elle, même si tu savais qu'elle avait pas les outils puis que t'étais en train de te détruire, toi, dans ton développement, dans cette famille-là. L'amour que t'as eu pour cette famille tampon-là que t'as nommée. Puis je veux, parce que ta résilience, ta force. Moi, je me demande, y a-t-il un parcours? C'est sûr, tu as rencontré des intervenants. Je pense à ton conjoint actuel qui a été une belle lumière dans ta vie, à cette famille tampon-là. Je pense à Maxime, un autre itinérant dont tu nous as parlé, qui a eu un impact sur t'aider à continuer de voir clair puis de foncer. Il y a tellement d'amour bien placé dans un regard, dans deux, trois phrases, dans l'humanité, dans ce que tu nous as nommé, que ça me touche particulièrement parce que je pense que c'est un tout qui fait que, Alexandra, aujourd'hui, t'as écrit quand on parlait de tous ces phénomènes-là, Jeff et moi, puis t'as dit, hey, moi, je suis une de vos auditrices, puis je peux vous en parler, tu sais, puis que t'as cette vulnérabilité. On l'a pas dit, mais on le sait que t'es nerveuse, on sait que ça t'a pris beaucoup, mais que tu le faisais avec ton cœur. Je salue tous ces gens qui ont été aussi dans ta vie, qui t'ont entouré, qui t'ont donné cette chance-là.
Puis, si je peux rajouter...
Vas-y.
Si vous avez une famille dysfonctionnelle, moi, j'ai un conseil pour vous. Construisez la vôtre.
C'est bien dit.
Es-tu là-dedans?
Oui.
Tu fais ton foyer aimant?
Oui.
Félicitations.
Ouais. Alexandra, merci. Merci infiniment d'avoir eu le courage d'être venu nous voir.
En espérant de pouvoir revenir.
La porte est ouverte.
Merci.
Good. Passe une belle fin de journée. Vous êtes à l'antenne de Boulevard 101. C'est l'émission On en jase.
On en jase jusqu'à 14h. On en jase.